Comme dans un livre, Marie-Christine Loubry. Les liaisons dangereuses, de Pierre Chauderlos de Laclos. Lettre 140. Le vicomte de Valmont à la marquise de Merteuil. Comment donc se fait-il, ma belle amie, que je ne reçoive point de réponse de vous? Ma dernière lettre, pourtant, me paraissait en mériter une. Et depuis 3 jours que je devrais l'avoir reçue, je l'attends encore. Je suis fâchée au moins. Aussi, ne vous parlerai-je pas du tout de mes grandes affaires. Que le raccommodement ait eu son plein effet, qu'au lieu de reproches et de méfiance, il n'ait produit que de nouvelles tendresses, que ce soit moi actuellement qui reçoive les excuses et les réparations dues à ma candeur soupçonnée. Je ne vous en dirai mot. Et sans l'événement imprévu de la nuit dernière, je ne vous écrirai pas du tout. Mais comme celui-là regarde votre pupille, et que vraisemblablement elle ne sera pas dans le cas de vous en informer elle-même, au moins de quelque temps, je me charge de ce soin. Par des raisons que vous devinerez, ou que vous ne devinerez pas, Madame de Tourvel ne m'occupait plus depuis quelques jours, et comme ces raisons-là ne pouvaient exister chez la petite Volanges, j'en étais devenue plus assidue auprès d'elle. Grâce à l'obligeant portier, je n'avais aucun obstacle à vaincre. Et nous menions, votre pupille et moi, une vie commode et bien réglée. Mais l'habitude amène la négligence. Les premiers jours, nous n'avions jamais pris assez de précautions pour notre sûreté. Nous tremblions encore derrière les verrous. Hier, une incroyable distraction a causé l'accident dont j'ai à vous instruire. Et si, pour mon compte, j'en ai été quitte pour la peur, il en coûte plus cher à la petite fille. Nous ne dormions pas, mais nous étions dans le repos et l'abandon qui suivent la volupté, quand nous avons entendu la porte de la chambre s'ouvrir tout à coup. Aussitôt, je saute à mon épée, tant pour ma défense que pour celle de notre commune pupille. Je m'avance et ne vois personne. Mais en effet, la porte était ouverte. Comme nous avions de la lumière, j'ai été à la recherche et n'ai trouvé âme qui vive. Alors je me suis rappelé que nous avions oublié nos précautions ordinaires. Et sans doute, la porte poussée seulement ou mal fermée s'était ouverte d'elle-même. En allant rejoindre ma timide compagne pour la tranquilliser, je ne l'ai plus trouvée dans son lit. Elle était tombée ou s'était sauvée dans sa ruelle. Enfin, elle y était étendue sans connaissance et sans autre mouvement que d'assez fortes convulsions. Jugez de mon embarras. Je parvins pourtant à la remettre dans son lit et même à la faire revenir. Mais elle s'était blessée dans sa chute. Elle ne tarda pas à en ressentir les effets. Des maux de reins, de violentes coliques, des symptômes moins équivoques encore, m'ont eu bientôt éclairé sur son état. Mais, pour le lui apprendre, il a fallu lui dire d'abord celui où elle était auparavant, car elle ne s'en doutait pas. Jamais, peut-être, jusqu'à elle, on n'avait conservé tant d'innocence en faisant si bien tout ce qu'il fallait pour s'en défaire. Oh, celle-là ne perd pas son temps à réfléchir. Mais elle en perdait beaucoup à se désoler, et je sentais qu'il fallait prendre un parti. Je suis donc convenue avec elle que j'irais sur le champ chez le médecin et le chirurgien de la maison, et qu'en les prévenant qu'on allait venir les chercher, je leur confierais le tout sous le secret. Qu'elle, de son côté, sonnerait sa femme de chambre, qu'elle lui ferait ou ne lui ferait pas sa confidence, comme elle voudrait, mais qu'elle enverrait chercher du secours, et défendrait surtout qu'on réveillât Madame de Volanges. Attention délicate et naturelle d'une fille qui craint d'inquiéter sa mère. J'ai fait mes 2 courses et mes 2 confessions le plus lestement que j'ai pu, et de là, je suis rentrée chez moi, d'où je ne suis pas encore sortie. Mais le chirurgien, que je connaissais d'ailleurs, est venu à midi me rendre compte de l'état de la malade. Je ne m'étais pas trompée. Mais il espère que, s'il ne survient pas d'accident, on ne s'apercevra de rien dans la maison. La femme de chambre est du secret. Le médecin a donné un nom à la maladie, et cette affaire s'arrangera comme 1000 autres, à moins que par la suite il ne nous soit utile qu'on en parle. Mais y a-t-il encore quelque intérêt commun entre vous et moi? Votre silence m'en ferait douter. Je n'y croirais même plus du tout, si le désir que j'en ai ne me faisait chercher par tous les moyens d'en conserver l'espoir. Adieu, ma belle amie. Je vous embrasse, rancune tenante. Lettre 141. La marquise de Merteuil au vicomte de Valmont. Mon Dieu, vicomte, que vous me gênez par votre obstination. Que vous importe mon silence? Croyez-vous, si je le garde, que ce soit faute de raison pour me défendre? Ah, plût à Dieu! Mais non, c'est seulement qu'il m'en coûte de vous les dire. Parlez-moi vrai. Vous faites-vous illusion à vous-même ou cherchez-vous à me tromper? La différence entre vos discours et vos actions ne me laisse de choix qu'entre ces deux sentiments. Lequel est le véritable? Que voulez-vous donc que je vous dise, quand moi-même je ne sais que penser? Vous paraissez vous faire un grand mérite de votre dernière scène avec la présidente. Mais qu'est-ce donc qu'elle prouve pour votre système ou contre le mien? Assurément, je ne vous ai jamais dit que vous aimiez assez cette femme pour ne pas la tromper, pour n'en pas saisir toutes les occasions qui vous paraîtraient agréables ou faciles. Je ne doutais même pas qu'il ne vous fût à peu près égal de satisfaire avec une autre qu'avec la première venue, jusqu'au désir que celle-ci seule aurait fait naître. Et je ne suis pas surprise que, pour un libertinage d'esprit qu'on aurait tort de vous disputer, vous ayez fait une fois par projet ce que vous aviez fait mille autres par occasion. Qui ne sait que c'est là le simple courant du monde, et votre usage à tous, tant que vous êtes, depuis le scélérat jusqu'aux espèces. Celui qui s'en abstient aujourd'hui passe pour romanesque, et ce n'est pas là, je crois, le défaut que je vous reproche. Mais ce que j'ai dit, ce que j'ai pensé, ce que je pense encore, c'est que vous n'en avez pas moins de l'amour pour votre présidente. Non pas, à la vérité, de l'amour bien pur ni bien tendre, mais de celui que vous pouvez avoir. De celui, par exemple, qui fait trouver à une femme les agréments ou les qualités qu'elle n'a pas, qui la place dans une classe à part, et met toutes les autres en second ordre, qui vous tient encore attaché à elle, même alors que vous l'outragez, tel enfin que je conçois qu'un sultan peut le ressentir pour sa sultane favorite, ce qui ne l'empêche pas de lui préférer souvent une simple odalisque. Ma comparaison me paraît d'autant plus juste que, comme lui, jamais vous n'êtes ni l'amant ni l'ami d'une femme, mais toujours son tyran ou son esclave. Aussi suis-je bien sûr que vous vous êtes bien humilié, bien avili, pour rentrer en grâce avec ce bel objet, et trop heureux d'y être parvenu, dès que vous croyez le moment arrivé d'obtenir votre pardon, vous me quittez pour ce grand événement. Encore dans votre dernière lettre, si vous ne m'y parlez pas de cette femme uniquement, c'est que vous ne voulez m'y rien dire de vos grandes affaires. Elle vous semble si importante que le silence que vous gardez à ce sujet vous semble une punition pour moi. Et c'est après ces mille preuves de votre préférence décidée pour une autre que vous me demandez tranquillement s'il y a encore quelque intérêt commun entre vous et moi. Prenez-y garde, vicomte. Si une fois je réponds, ma réponse sera irrévocable. Et craindre de la faire en ce moment, c'est peut-être déjà en dire trop. Aussi, je n'en veux absolument plus parler. Tout ce que je peux faire, c'est de vous raconter une histoire. Peut-être n'aurez-vous pas le temps de la lire, ou celui d'y faire assez attention pour la bien entendre. Libre à vous. Ce ne sera, au pis-aller, qu'une histoire de perdue. Un homme de ma connaissance s'était empêtré, comme vous, d'une femme qui lui faisait peu d'honneur. Il avait bien, par intervalle, le bon esprit de sentir que, tôt ou tard, cette aventure lui ferait tort. Mais, quoi qu'il en rougît, il n'avait pas le courage de rompre. Son embarras était d'autant plus grand qu'il s'était vanté à ses amis d'être entièrement libre. Et qu'il n'ignorait pas que le ridicule qu'on a augmente toujours en proportion qu'on s'en défend. Il passait ainsi sa vie, ne cessant de faire des sottises et ne cessant de dire après « ce n'est pas ma faute ». Cet homme avait une amie qui fut tentée un moment de le livrer au public en cet état d'ivresse et de rendre ainsi son ridicule ineffaçable. Mais pourtant, plus généreuse que maligne, ou peut-être encore par quelque autre motif, elle voulut tenter un dernier moyen pour être, à tout événement, dans le cas de dire comme son ami, « ce n'est pas ma faute ». Elle lui fit donc parvenir, sans aucun autre avis, la lettre qui suit, comme un remède dont l'usage pourrait être utile à son mal. « On s'ennuie de tout, mon ange, c'est une loi de la nature, ce n'est pas ma faute ». Si donc je m'ennuie aujourd'hui d'une aventure qui m'a occupé entièrement depuis 4 mortels mois, ce n'est pas ma faute. Si, par exemple, j'ai eu juste autant d'amour que toi de vertu, et c'est sûrement beaucoup dire, il n'est pas étonnant que l'un ait fini en même temps que l'autre. Ce n'est pas ma faute. Il suit de là que depuis quelque temps je t'ai trompé, mais aussi ton impitoyable tendresse m'y forçait en quelque sorte. Ce n'est pas ma faute. Aujourd'hui, une femme que j'aime éperdument exige que je te sacrifie. Ce n'est pas ma faute. Je sens bien que voilà une belle occasion de crier au parjure. Mais si la nature n'a accordé aux hommes que la constance, tandis qu'elle donnait aux femmes l'obstination, ce n'est pas ma faute. Crois-moi, choisis un autre amant, comme j'ai fait une autre maîtresse. Ce conseil est très bon. Si tu le trouves mauvais, ce n'est pas ma faute. Adieu, mon ange. Je t'ai prise avec plaisir, je te quitte sans regret. Je te reviendrai peut-être. Ainsi va le monde, ce n'est pas ma faute. De vous dire, vicomte, l'effet de cette dernière tentative, et ce qui s'en est suivi, ce n'est pas le moment. Mais je vous promets de vous le dire dans ma première lettre. Vous y trouverez aussi mon ultimatum sur le renouvellement du traité que vous me proposez. Jusque-là, adieu tout simplement. À propos, je vous remercie de vos détails sur la petite Volange. C'est un article à réserver jusqu'au lendemain du mariage pour la Gazette de Médisance. En attendant, je vous fais mon compliment de condoléance sur la perte de votre postérité. Bonsoir, vicomte. Lettre 142. Le vicomte de Valmont à la marquise de Merteuil. Ma foi, ma belle amie, je ne sais si j'ai mal lu ou mal entendu, et votre lettre, et l'histoire que vous m'y faites, et le petit modèle épistolaire qui était compris. Ce que je puis vous dire, c'est que ce dernier m'a paru original et propre à faire de l'effet. Aussi, je l'ai copié tout simplement, et tout simplement encore, je l'ai envoyé à la céleste présidente. Je n'ai pas perdu un moment, car la tendre missive a été expédiée dès hier au soir. Je l'ai préférée ainsi, parce que d'abord je lui avais promis de lui écrire hier, et puis aussi parce que j'ai pensé qu'elle n'aurait pas trop de toute la nuit pour se recueillir et méditer sur ce grand événement, dussiez-vous une seconde fois me reprocher l'expression. J'espérais pouvoir vous renvoyer ce matin la réponse de ma bien-aimée, mais il est près de midi et je n'ai encore rien reçu. J'attendrai jusqu'à 3 heures. Et si alors je n'ai pas eu de nouvelles, j'irai en chercher moi-même, car, surtout en fait de procéder, il n'y a que le premier pas qui coûte. À présent, comme vous pouvez croire, je suis fort empressée d'apprendre la fin de l'histoire de cet homme de votre connaissance, si véhémentement soupçonné de ne savoir pas, au besoin, sacrifier une femme. Ne se sera-t-il pas corrigé? Et sa généreuse amie ne lui aura-t-elle pas fait grâce? Je ne désire pas moins de recevoir votre ultimatum, comme vous dites si politiquement. Je suis curieux surtout de savoir si, dans cette dernière démarche, vous trouverez encore de l'amour. Ah, sans doute, il y en a, et beaucoup. Mais pour qui? Cependant, je ne prétends rien faire valoir, et j'attends tout de vos bontés. Adieu, ma charmante amie. Je ne fermerai cette lettre qu'à 2 heures, dans l'espoir de pouvoir y joindre la réponse déchirée. À 2 heures de l'après-midi, toujours rien, l'heure me presse beaucoup, je n'ai pas le temps d'ajouter un mot, mais cette fois, refuserez-vous encore les plus tendres baisers de l'amour ?
See, and then the moment I met you again, I knew in my heart that we were friends. It had to be so, it couldn't be no. I don't care what people say, to me you're more than a child. Oh Claire, 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 if ever a moment so rare was captured for all to compare, that moment is you,
Lettre 143. La présidente de Tourvel à Madame de Rosemonde. Le voile est déchiré, madame, sur lequel était peinte l'illusion de mon bonheur. La funeste vérité m'éclaire et ne me laisse voir qu'une mort assurée et prochaine, dont la route m'est tracée entre la honte et le remords. Je la suivrai. Je chérirai mes tourments s'ils abrègent mon existence. Je vous envoie la lettre que j'ai reçue hier. Je n'y joindrai aucune réflexion, elle les porte avec elle. Ce n'est plus le temps de se plaindre, il n'y a plus qu'à souffrir. Ce n'est pas de pitié que j'ai besoin, c'est de force. Recevez, madame, le seul adieu que je ferai, et exaucez ma dernière prière. C'est de me laisser à mon sort, de m'oublier entièrement, de ne plus me compter sur la terre. Il est un terme dans le malheur, où l'amitié même augmente nos souffrances et ne peut les guérir. Quand les blessures sont mortelles, tout secours devient inhumain. Tout autre sentiment m'est étranger que celui du désespoir. Rien ne peut plus me convenir que la nuit profonde où je vais ensevelir ma honte. J'y pleurerai mes fautes, si je puis pleurer encore. Car depuis hier, je n'ai pas versé une larme. Mon cœur flétri n'en fournit plus. Adieu, madame, ne me répondez point. J'ai fait le serment sur cette lettre cruelle de n'en plus recevoir aucune. Lettre 144. Le vicomte de Valmont à la marquise de Merteuil. Hier, à 3 heures du soir, ma belle amie, impatientée de n'avoir pas de nouvelles, je me suis présentée chez la belle délaissée. On m'a dit qu'elle était sortie. Je n'ai vu dans cette phrase qu'un refus de me recevoir, qu'il m'a ni fâché ni surpris. Et je me suis retirée dans l'espérance que cette démarche engagerait au moins une femme si polie à m'honorer d'un mot de réponse. L'envie que j'avais de la recevoir m'a fait passer exprès chez moi vers les 9 heures, et je n'y ai rien trouvé. Étonnée de ce silence, auquel je ne m'attendais pas, j'ai chargé mon chasseur d'aller aux informations et de savoir si la sensible personne était morte ou mourante. Enfin, quand je suis rentrée, il m'a appris que Madame de Tourvel était sortie en effet à 11 heures du matin avec sa femme de chambre, qu'elle s'était fait conduire au couvent de, et qu'à 7 heures du soir, elle avait renvoyé sa voiture et ses gens en faisant dire qu'on ne l'attendit pas chez elle. Assurément, c'est se mettre en règle. Le couvent est le véritable asile d'une veuve, et si elle persiste dans une résolution si louable, je joindrai à toutes les obligations que je lui ai déjà celle de la célébrité que va prendre cette aventure. Je vous le disais bien, il y a quelque temps, que malgré vos inquiétudes, je ne reparaîtrais sur la scène du monde que brillant d'un nouvel éclat. Qu'ils se montrent donc, ces critiques sévères qui m'accusaient d'un amour romanesque et malheureux, qu'ils fassent des ruptures plus promptes et plus brillantes, mais non, qu'ils fassent mieux, qu'ils se présentent comme consolateurs, la route leur est tracée. Eh bien, qu'ils osent seulement tenter cette carrière que j'ai parcourue en entier. Et si l'un d'eux obtient le moindre succès, je lui cède la première place. mais ils éprouveront tous que, quand j'y mets du soin, l'impression que je laisse est ineffaçable. Ah, sans doute, celle-ci le sera. Et je compterai pour rien tous mes autres triomphes, si jamais je devais avoir auprès de cette femme un rival préféré. Ce parti qu'elle a pris flatte mon amour-propre, j'en conviens. Mais je suis fâchée qu'elle ait trouvé en elle une force suffisante pour se séparer autant de moi. Il y aura donc entre nous deux autres obstacles que ceux que j'aurais mis moi-même. Quoi ? Si je voulais me rapprocher d'elle, elle pourrait ne plus le vouloir. Que dis-je ? Ne le pas désirer ? N'en plus faire son suprême bonheur ? Est-ce donc ainsi qu'on aime ? Et croyez-vous, ma belle amie, que je doive le souffrir ? Ne pourrais-je, par exemple, et ne vaudrait-il pas mieux tenter de ramener cette femme au point de prévoir la possibilité d'un raccommodement qu'on désire toujours tant qu'on l'espère ? Je pourrais essayer cette démarche sans y mettre d'importance, et par conséquent, sans qu'elle vous donnât d'ombrage. Au contraire, ce serait un simple essai que nous ferions de concert. Et quand même je réussirais, ce ne serait qu'un moyen de plus de renouveler, à votre volonté, un sacrifice qui a paru vous être agréable. À présent, ma belle amie, il me reste à en recevoir le prix, et tous mes vœux sont pour votre retour. Venez donc vite retrouver votre amant, vos plaisirs, vos amis et le courant des aventures. Celle de la petite Volange a tourné à merveille. Hier, que mon inquiétude ne me permettait pas de rester en place, j'ai été, dans mes courses différentes, jusque chez Madame de Volange. J'ai trouvé votre pupille déjà dans le salon, encore dans le costume de malade, mais en pleine convalescence, et n'en étant que plus fraîche et plus intéressante. Vous autres femmes, en pareil cas, vous seriez restées un mois sur vos chaises longues. Ma foi, vive les demoiselles ! Celle-ci m'a en vérité donné envie de savoir si la guérison était parfaite. J'ai encore à vous dire que cet accident de la petite fille a pensé rendre fou votre sentimentaire Danceny. D'abord, c'était de chagrin. Aujourd'hui, c'est de joie. Sa Cécile était malade. Vous jugez que la tête tourne dans un tel malheur. Trois fois par jour, il envoyait savoir des nouvelles, et n'en passait aucun sans s'y présenter lui-même. Enfin, il a demandé, par une belle épître à la maman, la permission d'aller la féliciter sur la convalescence d'un objet si cher, et Madame de Volange y a consenti. Si bien que j'ai trouvé le jeune homme établi comme par le passé, à un peu de familiarité près qu'il n'osait encore se permettre. C'est de lui-même que j'ai su ces détails, car je suis sortie en même temps que lui, et je l'ai fait jaser. Vous n'avez pas d'idée de l'effet que cette visite lui a causé. C'est une joie, ce sont des désirs, des transports impossibles à rendre. Moi qui aime les grands mouvements, j'ai achevé de lui faire perdre la tête en l'assurant que sous très peu de jours, je le mettrai à même de voir sa belle de plus près encore. En effet, je suis décidée à la lui remettre, aussitôt après mon expérience faite. Je veux me consacrer à vous tout entier. Et puis, vaudrait-il la peine que votre pupille fût aussi mon élève si elle ne devait tromper que son mari ? Le chef-d'œuvre est de tromper son amant, et surtout son premier amant. Car pour moi, je n'ai pas à me reprocher d'avoir prononcé le mot d'amour. Adieu, ma belle amie. Revenez donc au plus tôt jouir de votre empire sur moi, en recevoir l'hommage et m'en payer le prix.